Qui lance le toxin à destination de toute âme qui vit sur un territoire? Qui déclenche les sirènes sur la métropole? Pour cela, nous sommes allés chercher l'info là où se logent les cellules de crise, à la préfecture, donc pour la Haute-Garonne, place Saint-Étienne, à Toulouse. Nous recevons donc Marc Zarouati, agrégé de maths et professeur en physique théorique, ex-professeur associé en épistémologie et histoire des sciences, et malgré tout directeur du cabinet du préfet de Haute-Garonne.
Pour commencer, quel est votre rôle dans la préfecture ?
Alors, mon rôle auprès du préfet est de porter les questions relatives à la sécurité, sous tous ses aspects, la sécurité civile, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais aussi les autres formes de sécurité, police, gendarmerie, etc. Toutes les questions relatives à l'urgence et aux dossiers particulièrement sensibles.
Alors, il existe un ensemble de procédures, le système d'alerte et d'information aux populations, abrégé SAIP, que le public a surtout connu par application homonyme qui a été abandonnée en 2018. Qu'en est-il actuellement de ce dispositif?
Alors, ce dispositif, effectivement, dont vous avez rappelé le sigle, le système d'alerte et d'information des populations, est un dispositif qui a vocation à renouveler, à moderniser le dispositif que tout le monde connaît, qui est celui des sirènes, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui a prouvé son utilité à l'époque, et qui avait besoin d'être modernisé, même si on peut reconnaître au dispositif installé dans les années 40 une très grande durée de vie. Mais là, on arrivait à des dysfonctionnements de plus en plus importants liés à l'âge du dispositif. Et donc, il fallait à la fois renouveler les sirènes elles-mêmes, mais ça, il y avait déjà eu des renouvellements, mais aussi renouveler les systèmes de connexion entre les sirènes et puis justement les commutateurs qui permettent de déclencher l'alarme. Donc, c'est ce nouveau système qui s'appelle SAIP, qui est piloté par le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de l'Urgence et de la Gestion des Crises, et qui est déployé progressivement en France depuis 2013. Voilà, c'est un déploiement progressif, puisqu'il faut d'abord faire analyser un petit peu les besoins. Quand on déploie un nouveau dispositif de sirène et d'alerte lié aux nouveaux instruments de communication, les téléphones portables, etc., il faut regarder un petit peu d'abord quels sont les lieux qui sont les plus à risque, prioriser un petit peu ces installations en fonction des lieux qui sont les plus à risque, et ensuite déployer progressivement par phase. Et c'est le cas en Haute-Garonne, où on déploie progressivement ce dispositif.
Qui décide de lancer l'alerte ?
Alors, tout dépend de la gravité et de l'ampleur de la crise. Si on a affaire à une crise nationale ou internationale, c'est le président de la République, c'est le gouvernement qui va décider de lancer l'alerte. Et cette alerte sera donc reprise par l'ensemble et exécutée par l'ensemble des préfets de département dans tous les départements de France. Si la crise est départementale ou interdépartementale, donc on va dire sur un périmètre un peu plus circonscrit, là, c'est le préfet de département qui est en charge de la gestion des crises qui va donner l'alerte. C'est la plupart des cas, c'est ça, c'est le préfet. Parce que quand on a une crise, généralement, elle ne se limite pas aux frontières d'une commune. Mais il peut arriver parfois qu'il y ait une raison qui légitime le fait que le maire puisse vouloir utiliser la sirène pour un problème majeur qui serait localisé sur sa commune ou en tout cas qui démarrerait sur sa commune et qui nécessiterait une urgence.
Justement, qui prend la décision de lancer l'alerte ou non ?
Ben justement, ça dépend. Ce que je vous disais, ça dépend un petit peu du niveau. La décision, elle peut être prise au niveau ministériel, auquel cas elle sera répercutée par les préfets. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'un point de vue technique, le maire qui dispose d'une sirène dans sa commune, sur son hôtel de ville, il peut mécaniquement l'enclencher. D'accord ? Donc s'il estime, mais ça serait vraiment un cas rarissime, mais pourquoi pas, s'il estime qui a qui est un très très dangereux personnage qui soit sur la place du marché en train de tirer sur tout le monde. Bon, ben voilà, à un moment donné, il faut prévenir la population, leur donner le signal de se calfeutrer chez eux. Le maire peut éventuellement estimer de son propre chef qu'il faut utiliser la sirène. Donc c'est un cas extrêmement rare, mais il peut le faire d'un point de vue mécanique. Mécaniquement, il peut le faire. Il faut évidemment qu'il prévienne tout de suite le préfet. Ensuite, le préfet, lui, dispose d'un instrument qui lui permet, ici, à la préfecture, en appuyant sur un bouton, de déclencher toutes les sirènes du département. D'accord ? Donc, il peut aussi le faire de sa propre initiative s'il estime qu'il y a une crise dans le département. Il n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de le faire au niveau national. Et puis, ça peut lui être demandé par le niveau national s'il y a une crise gravissime et qu'il faut que tous les gens se calfeutrent parce que, je ne sais pas, moi, il y a un très grave accident industriel qui touche plusieurs départements.
Justement, la question, c'est quel type d'incident ou d'accident justement nécessite l'alerte, quoi.
Alors, si vous voulez, avant de peut-être avant de dire quel type d'accident nécessite l'alerte, peut-être ce qu'il faut pour comprendre quel type d'accident nécessite l'alerte, se poser la question de savoir comment ça, qu'est-ce que déclenche l'alerte en fait, quel signal on envoie quand on déclenche l'alerte. Donc l'alerte, ça peut être une alerte sirène, d'accord, donc trois sonneries de 1 minute 41 qui indiquent qu'on est véritablement dans une alerte. Et cette alerte se termine par une sonnerie de 30 secondes. Bon, donc il y a une codification, un peu comme le morse, il y a une codification que les gens doivent connaître. D'ailleurs, il faut le rappeler régulièrement parce que c'est normal, on peut l'oublier. Et ce que vous entendez tous les premiers mercredis du mois, c'est une sonnerie d'1 minute 41, avec signal montant, signal descendant, qui permet tout simplement de tester la sirène. Donc, si effectivement les gens entendent ces trois séquences d'1 minute 41 secondes séparées par un silence, avec un son modulé montant et descendant, alors les gens doivent faire des choses, c'est-à-dire rejoindre sans délai un local qui est clos, de préférence sans fenêtre. Six fenêtres en bouchant tous les orifices, hein, les fenêtres, les aiguilles, fentes, portes, aération, cheminée, etc. Arrêter la climatisation, le chauffage, la ventilation, on comprend bien pourquoi, pour éviter qu'il y ait de l'air exactement qui vienne de l'extérieur. Et puis, allumer sa radio. Ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que ça nous permet de rappeler, c'est rester dans son véhicule, aller chercher les enfants à l'école. C'est le premier réflexe qu'on peut avoir, hein, d'aller chercher les enfants à l'école. Moi-même, c'est ce que j'ai fait le jour du 21 septembre 2001 à Toulouse. J'étais dans la ville, je ne sais pas si vous étiez déjà là. Bon, voilà, c'est le premier truc que je suis allé faire. Donc, c'est le truc qu'il ne faut pas faire parce que du coup, les gens sont dehors alors qu'en fait, les enseignants ont des protocoles pour s'occuper des enfants et les calfeutrer. Il ne faut pas non plus téléphoner parce que quand on téléphone, on surcharge complètement les réseaux au moment où précisément les services de secours et d'intervention ont besoin de communiquer. Il faut ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors. Ce qu'il ne faut pas faire, pardon, c'est ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors. Pardon. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire éviter la communication air vers l'extérieur, rester près des vitres, évidemment, allumer une quelconque flamme, parce qu'on ne sait pas évidemment ce qui circule. Et puis, il ne faut pas quitter l'abri sans consigne des autorités. Donc, vous voyez que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, d'abord, c'est intéressant de rappeler aux auditeurs parce que parfois on peut l'oublier, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on a une alerte. Mais vous voyez qu'en fait, de quoi on se protège? On se protège d'arrivées extérieures. Donc ça peut être bien évidemment une attaque humaine, mais ça peut être surtout peut-être plutôt un nuage toxique qui est lié à un accident industriel. Hein. Il y a eu récemment du côté de Rouen un accident industriel, voilà. Enfin, ça peut arriver. On parlait il y a quelques minutes d'AZF. Enfin, bon, il peut y avoir des accidents industriels. Il peut y avoir des dégagements toxiques, il peut y avoir des phénomènes donc, dont on a besoin de se protéger et qui évoluent très vite. Et c'est à ça que ça sert le système d'alerte et d'information des populations. C'est que dès que la sirène résonne, normalement les gens doivent tout de suite prendre ces mesures pour éviter le contact avec l'extérieur.
Quelles sont les différentes classifications de danger? On a identifié le danger donc vis-à-vis d'un incident industriel. Il y a aussi le danger donc qui vient d'une gestion de l'ordre en cas de l'attaque d'un pays ennemi ou d'un attentat. Et il y a aussi les accidents climatiques. Est-ce qu'il y a d'autres types de catégories ou ce sont les trois principales sur lesquelles vous vous concentrez?
Oui, les barrages, il peut y avoir effectivement, il y a d'ailleurs des cornes de brume hein, qui sont mises autour des barrages et qui c'est une sirène alternative au SAIP, mais qui sont des dispositifs de sirènes qui sont mis en place autour des barrages. Si effectivement un barrage cède, il faut tout de suite prévenir les habitants de ce qui se passe. Alors là, il y a d'autres protocoles qui sont mis en œuvre, hein, puisque si un barrage cède et que vous êtes dans le lit du barrage, il faut peut-être pas rester chez soi. Mais en tout cas, le nombre, les accidents qui nécessitent en fait une urgence, un appel de sirène, c'est les accidents qui sont ce qu'on appelle les cinétiques rapides. Donc ça peut être aussi des inondations. Alors dans certains départements, par exemple, je pense au Vaucluse ou au Gard, on a du fait d'un certain nombre de phénomènes cévenol, ce qu'on appelle des accidents à cinétique rapide, c'est-à-dire que l'eau peut monter extrêmement rapidement. Bon, il faut mettre en place des dispositifs d'urgence qui sont spécifiques. Donc, vous voyez, c'est effectivement des éléments naturels ou des éléments industriels ou des éléments humains.
Et qu'est-ce qui classifie les établissements industriels? C'est le classement Céveso, il y a d'autres catégories? Alors, il y a une gestion des risques en amont?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, les établissements qui sont classés selon les risques liés à la nature des produits qui sont entreposés dans ces établissements et les produits qui sont produits précisément dans ces établissements. Effectivement, donc ça, c'est, cette classification, elle conduit à des systèmes de surveillance particulière, à des plans particuliers d'intervention, à des plans de sauvegarde, à des protocoles d'intervention. Bon, voilà, tout ça est surveillé par les services de l'État. Et puis ensuite, l'existence dans un territoire donné d'un certain nombre de lieux à risque fait que le territoire sera peut-être classé comme bassin à risque ou pas. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur quand je vous expliquais que le SAIP était déployé progressivement sur le territoire national en priorisant les endroits les plus dangereux. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on va d'abord prioriser, je sais pas, mais si vous regardez le nombre d'industries qui se trouvent dans le couloir du Rhône, vous voyez qu'il y en a un petit peu plus que sur le plateau du Larzac. Bon, voilà. Donc, on va prioriser les choses en fonction du nombre de risques, de l'acuité de ces risques pour les habitants de cette zone-là. Et c'est comme ça qu'on a priorisé les systèmes de déploiement de ce nouveau SAIP. En Haute-Garonne, ça correspondra à terme à 119 nouvelles sirènes. Enfin, 119 sirènes au total, donc certaines qui sont rénovées, d'autres qui sont ajoutées.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle des sirènes, historiquement, ce réseau national d'alerte civile a été mis en place dans les années 1940. Une partie a été déployée justement avant le déclenchement des hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Une autre partie a été faite après, au moment de la guerre froide, notamment en cas d'attaque aérienne, pour aller dans un abri ou bunker au plus vite. Est-ce qu'il y a encore des abris antiaériens ou des bunkers anti-atomiques sur Toulouse en activité ?
Alors, en activité, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, tout simplement, on ne sait jamais si demain, il y a une nation étrangère qui décide d'utiliser ses armes atomiques et qu'on a le temps de prévenir la population.
Ah non, non, on n'a pas, notre dispositif ne permet pas de ce type de protection. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'existe plus d'abri sous un tel ou tel immeuble. Hein. Enfin, je veux dire, ça, je ne sais pas. D'ailleurs, ça, c'est une très bonne question. Ce serait intéressant de discuter avec aussi des historiens, enfin, pour voir un peu d'historiens de Toulouse de la fin du XXe siècle. Et ça, si vous trouvez la réponse, moi, elle m'intéresse. Mais en tout cas, si on la ramène à la question qui nous occupe, à savoir quels sont les schémas et les protocoles d'urgence qu'on met en œuvre au niveau des services de l'État, non, l'atout bunker ne fait pas partie de notre panoplie. Peut-être aussi parce que la logique des bunkers, elle est liée au début de la guerre froide, avec des niveaux, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, hein, mais des niveaux de calibrage des bombes atomiques qui n'ont plus rien à voir avec les niveaux actuels. Donc
Et puis de toute façon, il y a un tel enchaînement de catastrophes après une explosion nucléaire que c'est très compliqué.
Voilà,
à
je pense qu'on est revenu de cette logique-là.
CCPU, l'émission Carré et Petit Utile, et nous parlons des alertes civiles avec Marc Zarouati, directeur du cabinet du préfet de Haute-Garonne. Il m'a semblé qu'il y avait plusieurs catégories de sirènes d'alerte civile. Vous avez parlé justement à la fois du réseau qui est géré par les préfectures et par l'exécutif, et aussi par celui au niveau local, par les maires. Est-ce qu'enfin c'est unifié, et est-ce qu'il y a une cartographie, une indexation quelque part justement de ces différents réseaux ?
Ah ben nous, on dispose de l'information relative aux lieux de danger dans le département. Donc, on parlait tout à l'heure des barrages. Donc, effectivement, alors pas forcément à la préfecture, mais dans les services de l'État, il y a des services qui sont spécialisés, dédiés au suivi de ce type d'ouvrage et aux mesures de sécurité qui sont mises en œuvre par ces ouvrages. Il y a un cahier des charges très précis que doit suivre l'exploitant et qu'il va mettre en œuvre et dont on vérifie la mise en œuvre. Donc, c'est vrai pour les barrages avec la Corne de Brune dont je vous parlais, mais c'est vrai aussi pour certains établissements industriels. Particulières qui produisent des choses qui pourraient produire des choses particulièrement toxiques, et dans ces cas-là ils peuvent avoir ça s'est inscrit dans leur PPI, leur plan particulier d'intervention, ils peuvent avoir une sirène effectivement. Cette sirène, elle a peut-être dans un premier temps vocation aussi à prévenir les employés qui doivent partir. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément uniquement pour les gens qui sont à l'extérieur du site. L'extérieur du site, il peut être géré par le système civil dont on parlait, SAIP. Mais oui, il existe d'autres dispositifs de sirène que le système SAIP, pour répondre à votre question.
D'accord. Pour le réseau que vous gérez, quelle est la portée géographique ?
Vous, quand ça sonne, voulez dire jusqu'à quelle distance on l'entend ?
Pas forcément, mais déjà donner une petite idée de la portée que ça a déjà sur le département.
L'idée, c'est de couvrir la quasi-totalité du département. Alors, il n'est pas complètement couvert, mais on couvre les zones les plus peuplées. La portée géographique d'une sirène, on dit que c'est généralement autour de 2 km, mais ça dépend du relief.
Oui. Chaque mois a lieu justement un test le premier mercredi du mois à midi sur Toulouse. Quels sont les exercices qui sont effectués à cette occasion-là ? Justement, on vérifie la sirène, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites en parallèle ?
Non, c'est la vérification de la sirène.
Juste ça.
Ouais, mais c'est le plus important. Voilà, des, voilà, Yahoo Informatique. Et donc, ce service s'occupe de piloter le, la maintenance avec des opérateurs. Je crois que c'est Orange, hein, il me semble, dans notre Garonne, qui a monté les... Les sirènes, ça, c'est, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, cette maintenance, elle est effectuée par des techniciens d'opérateurs privés, mais sous le contrôle des techniciens publics et des services publics. Mmh. C'est un réseau spécifique de transmission d'informations du ministère de l'Intérieur.
D'accord. On a parlé justement de la catastrophe d'AZF en 2001, qui, sur le coup, la population civile n'a pas entendu de sirène dans l'immédiat, juste après la catastrophe. Je pense que vous pourrez le témoigner justement de ce côté-là. Qu'en a retenu la préfecture de Haute-Garonne de cet accident? Et je vais reposer la même question, d'ailleurs, suite à la tuerie de l'école Ozar à Tora, le 19 mars 2012.
Oui, c'est une question intéressante. Je suis plus là depuis 6 mois, donc les débriefs qui ont eu lieu suite à AZF, je vous avoue que je ne les connais pas. Il faudrait, bon, pour Ozar à Tora, on est sur quelque chose de quand même de très particulier, qui est allé très vite, et où, au moment où on avait l'information, les choses s'étaient déjà déroulées. Bon. Ensuite, l'enjeu de la, du déclenchement du système des sirènes, c'est un enjeu, vous l'avez vu, où on se protège, tout le monde rentre chez soi. Bon, il faut pas créer non plus de panique qui fasse le contraire. Donc c'est un point sur lequel il faut faire attention. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant de regarder le débrief qui avait été fait à l'époque pour AZF, parce que AZF, hein, je sais pas si vous étiez, mais personne ne comprenait ce qui s'était passé. Il y a eu à un moment donné une détonation, et puis...
Et qui, par effet de souffle, on pouvait s'entendre en deux fois sur les endroits de la ville, et on pouvait croire que c'était juste à côté, oui.
Oui, tout à fait. Mais moi-même, je pensais que c'était juste à côté. Je me rappelle, j'étais dans le Jardin des Plantes à l'époque, et je croyais qu'il y avait à l'époque la fête Saint-Michel dans le Jardin des Plantes, et je pensais que c'était la cabane du tir à carabine d'à côté. Enfin, c'est assez effrayant, ça. On se dit, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, mais on pensait que c'était à côté.
Moi, j'étais à 1 kilomètre de l'épicentre.
Ah oui, oui.
J'ai vu les portes voler.
Oui. Donc à ce moment-là, je pense là aussi qu'il a fallu un certain temps avant qu'on comprenne réellement ce qui s'était passé. Mais à l'époque, j'étais pas du tout au ministère de l'Intérieur, donc je ne sais pas vous répondre précisément, on pourra regarder.
D'accord.
En plus des sirènes et de la radio, d'autres acteurs peuvent participer à la diffusion du message. Qui sont-ils et justement quels sont leurs moyens de diffusion? Vous êtes présent sur les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter. La préfecture transmet-elle aussi par ce biais-là les alertes?
Alors, les alertes. En fait, les alertes aujourd'hui. Bon, il y a plusieurs choses là quand même dans votre question. Il ne faut pas qu'on mélange tous les dispositifs.
Il est allé un peu vite, il n'a pas vu les retours à la ligne.
la question de l'alerte, elle existe de manière très régulière. Par exemple, aujourd'hui, on publie des communiqués de presse sur la vigilance orange en matière averse inondation. Enfin, je veux dire, l'information à la vigilance de l'ensemble des élus et donc par ricochet de l'ensemble des administrés du département, elle est assez régulière et du coup, on informe les élus, on leur dit voilà, attention, vigilance orange, tel phénomène, voilà les mesures à prendre. Et donc, ils ont des mesures à prendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on parlait du SAIP, mais il faudrait pas que vos auditeurs pensent que le SAIP, c'est le seul moyen de communiquer avec la population. On a une communication régulière à partir d'instruments électroniques. On appuie sur un bouton, tous les élus reçoivent une information précise et ils savent quelles dispositions ils ont à mettre en œuvre pour leurs administrés et quels messages ils ont à diffuser. Donc, et ça, ça n'a rien à voir avec le SAIP. Hein, d'accord? Donc ça existe de manière régulière.
Moi, je pensais, il y a eu quelques exemples, qui est donné d'ailleurs sur le site de la préfecture, c'est justement des messages d'alerte sur les panneaux, sur les autoroutes, notamment avec Vinci Autoroute ou avec la DDE.
Oui.
Il y a quelques exemples comme ça, aussi la télévision, vous avez cité la radio dans le truc, mais aussi la télévision.
Oui.
Justement, c'est via justement ces flashs, ces communiqués de presse et autres que vous informez comme ça les différents acteurs pour...
C'est ça. On a des canaux d'information variés et qu'on essaie d'adapter aux besoins. Donc, par exemple, on a des conventions avec les télés et les radios qui font que si on a vraiment un message extrêmement urgent à faire passer, ils sont tenus de le faire. Bon, c'est pas tous les jours, là, pour le coup, hein, c'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, il y a les panneaux à messages variables, effectivement, qui permettent de faire passer les informations sur autoroute, sur la rocade. On peut aussi demander aux communes, qui disposent elles aussi de panneaux à messages variables, de faire passer les informations quand ça le nécessite. Tout ça est un travail très partenarial. Je voudrais pas donner l'image que finalement il y a la préfecture qui diffuse ces messages. Tout ça est très partenarial, tout simplement parce que quand il s'agit de gérer une crise, il faut la gérer avec les gens qui sont sur le terrain. Et les gens qui sont sur le terrain, bah, c'est d'abord les élus locaux aussi. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'abord d'en discuter. Et il y a un travail, je dirais pas de concertation parce que ça a pas trop de sens en matière de crise, mais il y a un travail de discussion, de coopération pour essayer d'être le plus efficace possible.
Pour terminer, monsieur Zarouati, juste une question comme ça, pour savoir si vous tenez un petit bêtisier interne des alertes erronées. Quelle a été votre alerte erronée préférée? Vous avez le droit de dire lancement de missiles nord-coréens à Hawaï. Hein.
Alors, on ne lance pas de missiles nord-coréens depuis la préfecture de Haute-Garonne, donc voilà, ça ne s'est pas produit. Donc, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour qu'il y ait véritablement une anecdote croustillante.
Monsieur Zarouati, merci beaucoup. Pour cet entretien.
Avec plaisir, avec plaisir, et merci pour vos questions. C'est un sujet intéressant et c'est bien de pouvoir en parler avec vous et de pouvoir rappeler des choses aussi à vos auditeurs sur ce sujet.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé du temps. Bonne journée à vous.
Au revoir.